Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc ce soir dans nos Lectures en liberté pour la suite du récit de Yves Elewette. Falroun. D'abord, c'est la route et ses chevaux entre les haies froides. Le ciel laisse pendre ses mamelles gonflées de pluie. Ce sont de grandes poches. Elles semblent trop lourdes pour pouvoir se soutenir dans l'air. Cependant, elles avancent au-dessus de la campagne noircie. Sur la route sèche, parfois, le cadavre d'un crapaud écrasé par une roue de charrette. Dans les fossés verts remuent des bêtes invisibles. Une vipère bleutée se glisse dans les ronces. On entend l'immense bruissement des insectes. Et toujours un chien aboie dans quelques fermes lointaines, invisibles, posées quelque part derrière les bois. Le donjon crevassé, tapissé de lierre, semblable à un lourd visage regardant au loin, par-delà les méandres de papier d'étain de la rivière, dans la direction de l'océan. Oui, il était foyé par le démon. Je m'en rends compte à présent. Dans ce grenier où il passait d'interminables nuits, je le retrouve à présent. Cette maladie dont il souffrait. Entraîné la nuit malgré lui dans ce grand arbre qu'était le grenier avec ses branches immobiles et ses statues. Vieil homme dans la solitude. Avec ce mal de vivre qui ne l'avait pas empêché d'atteindre presque le siècle à cette époque. Cette étrange maladie de famille qui se transmettait comme ça sans qu'on sût comment. Et un jour venait où l'on savait. Il n'y avait pas vraiment eu d'hiatus entre les générations. C'était toujours à peu près le même être, si l'on admet quelques exceptions, qui existait depuis des temps immémoriaux. Avec cette envie qui lui venait parfois de quitter toute cette saloperie, mais sans pouvoir vraiment le faire. Et le cycle recommençait sans fin. C'est pourquoi, en moi, dormait mon parrain à la face de pierre dans le creux de l'oreiller. Et la nuit tournait, rose des vents, dans le grand arbre du grenier où s'abritait toute cette vieille fatigue de vivre dans les yeux fixes des lourdes statues coloriées sur lesquelles s'amoncelait la poussière des siècles. La lune venait avec sa perche de lumière s'appuyer sur ces fonds que peuplaient des poissons difformes. Et il n'y avait qu'un remède. C'était là, dans sa cachette, celle qui fermait les yeux du vieux sur le noir, remuant on ne sait quoi de doux et de formidablement ancien, comme toute la mémoire de la terre venue se réfugier là, à l'abri des changements visibles, des métamorphoses élémentaires de l'extérieur, momies, préservées dans onguents et bandelettes, allongé parmi les meubles d'Ekati, quiète, apaisée, écoutant toujours les mêmes voix chuchoteuses. L'ancêtre en était conscient. Et dans le lit que son corps irrigué par l'eau de vie réchauffait à peine, il recevait la visite de cette engeance innommable que seule la solitude, jointe à une ivresse non moins voulue et considérable, peut susciter. Ses formes disparaîtraient bientôt, fondraient. Mouvante, elle restituerait l'angle concret d'une commode ou le galbe d'un saloir de grès. Et l'inlassable souffle de l'air cesserait de brosser l'obliquité des pans du toit, avec la détermination d'un être doué de vouloir pour ne pas faire bruire que les sépales durcis d'une fleur desséchée par l'hiver. Je mordant. Je croque des grains de café à la baie des anges, comme toujours. Il craque sous la dent pour devenir cette petite boue de café amère. Son logo griffe sur la langue dont les papilles s'émeuvent, odeur amère du limuraire qui me rappelle Milady de Winter. Ou très vénéneuse, oui, la jusquiame, l'herbe grise. Dans un pays de mer, balancement des cyprès et leur bruit funèbre comme ce qui entoure le cimetière de Rosnoen, une garde remuante et sombre. Piste sensible de pas menus, nus, entre de fantastiques constructions, là, nuitamment, posé sur le piano éteint du restaurant à la manière d'une statue étrusque, couché, surmontant un sarcophage, coupe en main pour la libation celle qui délivre ce vieux corps recuit puis amenuisé, saint flasque sur la peau ondée de bourrelet, mère figée de cellulite, stop. Oui, certes, je revois le vieil homme, il s'infiltre dans mes tendons et dans mes os et dans mes muscles, bosselant et déformant ma carcasse à sa ressemblance. Et plus le temps passe, plus cette ressemblance s'accentue. Une fille dans chaque port, peut-être. Quoi qu'il en soit, une fois le dîner avalé, alors que l'on regarde encore luire les facettes des carafes à vin vides, dont le fond conserve une trace circulaire, une sorte de moisissure pourpre, s'approche celle qui, tout à l'heure, songeait à faire remailler son bas, ou bien telle autre qui rattachait le sien à la boucle de la jartelle. Tu pourrais monter vers 11 heures?
Oui.
Dès que nous aurons fini la vaisselle, c'est quelle chambre? La 5, au fond du couloir. Il est 11 heures. Au cadran de la montre dont les chiffres et les aiguilles sont visibles dans l'obscurité, il est allongé nu sous les draps, son mât argonautique déjà dressé. La porte s'ouvre et se referme très vite. La femme se dirige à tâtons vers le lit dont la courte pointe blanche semble suspendue dans l'air. On peut entendre la chute molle de la robe de chambre, vivement ôtée, puis celle à peine perceptible de la chemise de nuit. À l'extérieur, c'est la nuit. On peut voir les façades des cinémas éclairées, blafardes. Un mort-vivant se présente au premier plan parmi les tombes. Il porte dans ses bras hideux une jeune fille ou femme, à la blondeur opalescente et apparemment évanouie. Les seins jaillis hors d'un déshabillé transparent, elle semble remuer faiblement de longues jambes. Un pied seul est chaussé d'une mule qu'on peut imaginer bordée de duvets de cygne, tandis que l'autre pied, bleui par la lumière du néon, allonge des orteils fardés d'un rouge sang presque noir. En bas, la ville commence à bourdonner. Un peu de repos après la toute sauvage fatigue de la nuit. Ses yeux se ferment pour un somme qui sera forcément bref. Il me reste encore environ une heure. Déjà, il va dans les terres labourées, c'est l'automne. Sa main, pareille à une feuille morte au fond de sa poche, crispée sur une pierre, qu'il lancera tout à l'heure, langue dardée de la violence, mais sans espoir d'atteindre le but contre la prochaine mouette en dérive. Toujours la tapisserie de la vaste salle avec ses verts, ses bruns, ses ocres, les vases chinois, bleu vif sur fond blanc d'œil. En sortent les tiges cassantes et grêles de bouquets de fleurs séchées. Parfois, un léger courant d'air les froisse. Et c'est un bruit léger, funèbre. Les lagunes. Y passent au soir d'étranges bergers dont les yeux sont des fleurs de chardon. Voici les 9 marches permettant d'accéder à la terrasse. Il y a de la mousse entre les pierres. La silhouette du jardinier se profile derrière les vitres embuées. Où est-il à présent? Le jardin potager et le parc aux frontières brumeuses le savent peut-être. Il est un peu plus de 8 heures. Falroun écarte les paupières. C'est maintenant qu'il faudrait se laisser glisser pour de bon dans la cloche à plongeurs du sommeil. Il se lève toutefois et nu prend une douche froide. Une barbe d'eau glacée, une espèce de martinet qui cingle le crâne, les épaules, le dos, la poitrine et le cierge sacrificiel que l'on dresse d'une main vers la pomme de la douche et le haut du rideau de plastique éclaboussé de gouttelettes. Portrait d'un château. Non, certes, l'antique forteresse broussailleuse ruinée contre le ciel et qui se décompose suivant les lignes des crevasses traversant son corps, sensible au changement de température, à la chaleur comme au froid excessif, au vandalisme aussi qui lui rogne les ongles et lui arrache des lambeaux de carcasse, mais plutôt au cœur d'un bois précédé d'une allée de chênes danseurs, un manoir sylvestre, protégé par sa position cachée, son éloignement des routes et dont les carreaux de couleur pris dans une résille de plomb enchantent les grandes pièces à odeur d'encaustique. Les couloirs sont traversés à intervalles réguliers de longues barres solaires aveuglantes et silencieuses. Il arrive que passe lentement l'ombre d'un nuage. Les vitraux s'éteignent progressivement, puis se rallument, ranimant la danse des atomes.
Par ici, c'est la nuit tout est permis, y compris qu'elle installe les draps de son lit sur le fond de ta mémoire. Y compris que les oiseaux des hautes volières étouffent dans des sueurs de main meurtrière, qui les caressent un soir. Je rêve, mon rêve. Par ici, c'est la nuit tout est permis, y compris qu'on suffoque sans pousser un cri, en sombrant sur ses dalles. Ses ongles ovoïdes ramassent tes pleurs dans des flacons cristaux de diverses couleurs, selon ton genre de mal. Je rêve Paris. ici, c'est la nuit tout est permis. Tu roules à mon flanc comme la nullité de ma vie. Et ton rire se répète. Je regarde les forêts en frichant tes yeux. Veux-tu que je te dise où tu es bien courageux? Où tu as perdu ta tête? Je rêve, mon rêve. Assise en troupe ronde à l'oreille d'une gare, ton regard a pour mes deux pieds nus qui t'effarent. Des haines envers au fond. Par ici c'est la nuit tout est permis. Dans la coupe de mes baisers tu mets des lits. Amer sans raison. Je rêve. Je rêve. Par ici, c'est la nuit tout est permis. Quand mon enfant tout neuf a poussé un grand cri, parce qu'il était nouveau. Je l'ai posé à terre dans le fond d'un panier. J'ai refermé les anses jusqu'à l'étouffer. Ce qui est un grand cadeau. Je rêve. Je rêve.
En liberté, Denis Flageol.
Voilà, nous revenons donc au texte de Yves Elouette, Falrune. Tous ces châteaux que l'on retrouve au fil de la mémoire sont là. Avec le rayonnement de l'air brassé par les cloches, ils reposent au coin d'une serviette dépliée dans un banquet de mariage. En réalité, il n'en reste rien. Et les mouvements indicibles de la gaieté, les apprêts du matin, sont un fil de la Vierge qu'un brin d'air anime contre le flanc terreux d'un pot de fleurs. Dans la chaleur, le dos luisant de sueur des chevaux frissonne sous l'assaut des mouches. Sur le sable, les filles et les femmes enlèvent, plus ou moins discrètement, leur soutien-gorge, afin que la trace de là où des bretelles dit celui n'apparaisse pas ultérieurement en négatif sur la peau assombrie du fait de l'exposition au soleil. Falrune arrête son véhicule sur la route, en bordure de la plage, qui dévale en contrebas jusqu'à la mer aveuglante. Vous n'auriez pas de bière ou des jus de fruits? Non? « Malheureusement, je ne suis pas une buvette ambulante. On a bu tout ce qu'on avait, et pour en trouver d'autres, il faut aller jusqu'au bistrot là-bas. Vous voyez, c'est au moins à 1 kilomètre, chez Fourne. »« Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des bracelets? En quoi c'est fait ?»« C'est des bouts de cornes de vache en rondelles enfilées sur des élastiques. Combien ? 10 francs. 10 francs ceci, 8 francs cela. » Je prends celui-ci, il est joli. Tu trouves pas, Marie-Jo? Ouais. J'en prends un aussi, à 10 balles. Tu pourrais demander à Patrick de te l'offrir. Patrick, je l'emmerde. Dis donc, mais qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ce soir, les parents veulent que je reste à la maison. Ils veulent pas que je sorte plus de 3 fois dans la semaine. C'est déjà assez comme ça qu'ils disent. Merde alors. Je crois que... Oui, je... Falrune s'éloigne, mollement. le moteur de sa boutique roulante tournant au ralenti. Chez Fourne. Débit, épicerie, etc. Madame Fourne, cheveux gris, blouse grise, fleurette gris pâle sur fond gris soutenu, bas gris, peau tannée de la face et des mains au dos plissé, comme couvert d'une très mince pellicule luisante. L'alliance enfoncée dans le bourrelet de l'annulaire, au pied des chaussons de feutre, va et vient des touristes en bermuda, ventre, lunettes de soleil, carte postale. « Je voudrais un stylo bille. Vous avez des stylos billes ? À 1 ou 1,50 ? Je vais l'essayer sur un bout de papier, s'il vous plaît. Vous n'en avez pas avec de l'encre noire, non ? J'ai que des bleus et des rouges. Ah, regarde, Alice, s'il n'en reste pas à côté des enveloppes. Des quoi, Madame Fourne ? Des stylos billes noirs, censément. Attendez un peu. Si, si, il y en a un, en tout cas. Je ne sais pas s'il marche. Donne ici, Alice. Regardez donc, monsieur, si ça va. Oui. L'encre est un peu sèche, mais ça commence à marquer. Regardez. Ah oui, 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 par exemple. Alors, vous le prenez, monsieur ? Certainement, je vais le prendre. C'est combien ? Ah, ceux-ci sont plus chers, je crois. Alice, regarde le prix, donc. Il doit être marqué sur le présentoir. 2,50. 2,50 alors, monsieur. Une terrasse fermée domine dans l'ordre un jeu de quilles. On les entend s'entrechoquer quand elles dégringolent sur la terre battue. Les grosses boules de bois roulent avec un bruit sourd, plein. La plage en croissant, dont les deux bouts se perdent dans les rochers, la mer, d'une très belle couleur saphir, se diluant vers le bord dans les verts pâles. Au nord-est, Port-Sal, dans la chaleur. Falroun, calé dans un fauteuil de rotin. Devant lui, sur la table ronde, un demi de bière empanaché de mousse qui glisse sur la paroi de la chope. Cigarette. Les pieds dans des espadrilles décolorées, la chemise ouverte sur un torse maigre et roux. Jour d'été. La caisse magique se vide à une vitesse stupéfiante. Ensuite, je procède au réassortiment. Là, tout au fond, la couverture enroulée, bête endormie, chat ancien. Éternel promeneur des nuits rentrant par la fenêtre ouverte quand je dormais ou tentais de dormir. J'étais couché dans l'entrepont et les mouvements du navire le balançaient autour du amas immobile. Dans le château arrière, le capitaine allait et venait, les mains croisées derrière le dos. Son catogan défait, ses cheveux couvrant sa nuque et ses épaules. Au centre de la chambre, aux sombres boiseries, il y avait un grand astrolabe. La table était nappée d'une carte sur laquelle était portée la route précise du navire, de même qu'elle s'ouvrait avec un déchirement d'eau sous l'étrave. On pouvait voir au mur, outre un râtelier garni de pipes fortement culottées, et le plus souvent en terre à longs tuyaux, d'anciens portulans, une panoplie de pistolets, une autre de sabres courbes et de haches, une lourde lampe de cuivre faisait bouger les ombres. Non. C'était la lame blanche de la lune dans le grenier où les statues parlaient entre elles avec leur voix de feuilles. Elle entrait, ainsi qu'il a déjà été dit, l'âme oblique. 14 générations de Falroun se tenaient dans une horizontalité parfaite sur le grand lit vétuste, d'où s'élevaient les discours d'une sorte de momie. Discours auxquels se mêlaient parfois, de façon grotesque, les borborygmes d'un petit quadrupède familier. Tout l'intérieur du grenier rappelait celui d'une chambre funéraire avec, sur les murs, les profils d'Horus, d'Anubis et de quelques autres divinités moins aisément identifiables. Les bandes de papyrus interminables du Livre des Morts. En réalité, de vieux draps pleins de poussière, immaculés de taches, à l'origine indéterminée, construisant des cloisons flottantes qu'un souffle d'air animait de temps à autre d'une vie factice. Dehors, et tout autour, le jardin s'emplissait du furtif déplacement de bêtes farouches, et dans la rivière, les lignes de fond se tendaient sous la traction opiniâtre d'anguilles gluantes et noires, dont certaines, énormes, s'avéraient de véritables monstres et qu'on remontait au matin, semblables aux tronçons entortillés autour des algues d'une chevelure de gorgone. À l'abri de la table, il se gratte longuement, voluptueusement. Dans la chope armoiriée d'une tige de houblon surmontée de la banderole au nom d'une brasserie alsacienne, la bière se réchauffe lentement, s'évente. Le chien de fourne, un épagneul, sort de sa niche et houspille sans conviction on ne sait trop quoi, puis réintègre sa maisonnette de bois et de tôle, remorquant dans la poussière une chaîne aux anneaux cliquetants. À une hauteur difficilement appréciable, ambule un point de vif argent. Il laisse derrière lui une ligne de craie, dont peu à peu les bords s'épaississent, deviennent floconneux. On peut entendre un ronronnement sourdre du bleu du ciel. Progressivement, il s'atténue, se confond avec d'autres bruits, s'y dilue. Et de nouveau, c'est le règne du ressac ponctué de cris de baigneurs dont les jeux s'entrecroisent dans l'après-midi funèbre. Falroun commande une autre bière et dit qu'on remporte celle-ci qui est devenue tout à fait entre des filles et des garçons. Ils réclament à grand bruit des jus de fruits et des canettes. Alice, une longue adolescente aux cheveux châtains, se glisse entre les tables. Elle verse. Elle abreuve tous ces assoiffés interchangeables qu'amène l'été. Eliezer se fait servir une troisième consommation, puis une quatrième, une cinquième, etc. Enfin s'alourdit le vol des mouettes et se brouille la circulation des voitures sur la route de Corniche. Le ciel est immense, clair et vide, ainsi qu'un œil hydrocéphale. La sueur poisse le corps de Falroun comme la bière lui poisse la gueule. Sur cette photo, c'était lui, cet enfant aux cheveux pâles, atteint d'un léger genou valgoum, visible sur l'image, tenant entre ses mains un ballon de caoutchouc décoré de petites étoiles blanches. Le sable était là, déjà, et la mer montrait une apparence sereine, à Tréboule, à moins que ce fût au Sable d'Olonne. Un navire avait fait naufrage quelque part sur la ligne d'horizon, et des femmes élancées, coiffées très court, la nuque rasée, parlaient à travers de longs fumes cigarettes d'ambre, cigarettes blondes parfumées, Égypte ou Turquie. La grand-mère aux yeux bleus passés figurait une silhouette et, plus loin, figé dans un mouvement qui le transformait en oiseau, un plongeur quittait l'élasticité de raquette du tremplin au-dessus d'un semis de têtes dont certaines casquées d'un bonnet de bain à jugulaire. À l'issue de sa beuverie solitaire, Falroun se lève et se met en branle non sans quelques difficultés. Ses chevilles s'enfoncent dans le sable, à proximité de la route de Corniche, d'eau blanc, d'eau rouge, certains pèles, d'eau brunie. On ne voit plus de Medicine Ball, vaste comme la terre, mettons la lune. Toute une grimpée d'enfants maigrichons sur la grosse boule, minuscule tarentule grouillant sur leur mère. Les fumes cigarettes d'ambre, cerclées d'or, d'au moins un mètre, et au bout, la petite cigarette sucrée se consumant avec des grâces de fumée bleue en volute. Chaîne d'or autour de la cheville. Ongles des orteils, laqués de carmin dans des sandales de strass. C'était quoi cet échouage? Une mouche qui perd une aile et capote? Non. sans doute un lépidoptère. N'était-ce pas plutôt un petit vapeur qui soufflait du noir sur l'air clair ? Tchao, tch ! Empalé sur les rochers à fleur d'eau, même pas signalé, ou alors à bord, le capitaine tient une muffée de première. C'est possible. Une chaînette d'or autour de la cheville. Pourrais-je avoir des rapports avec l'une d'elles si je la rencontrais ici ? Mais oui, je la revois très bien, sa nuque rasée et dégradée. L'expression « avoir des rapports ». Au doigt, une pierre couleur de cerne. Améthyste ? La bière a tendance à remonter. Le navire, en s'échouant, avait émis ce terrible bruit de menuiserie effondrée par le passage d'un mammouth. On imagine. Nous arrivons ce soir à la fin de notre lecture en liberté et nous retrouverons demain la suite du texte de Yves Eléouette, Falrund. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.